sais pas si vous êtes des observateurs ou des guetteurs, si vous aimez observer les choses dans la nature et essayer d'en tirer des conséquences. Je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, un de mes objets préférés, c'était ma paire de jumelles. Et j'avais une grosse paire de jumelles que j'avais eue en cadeau. Et j'aimais observer dans la nature les choses. Et donc, je voudrais vous parler ce matin de gens qui guettent, qui sont les guetteurs. Et je voudrais vous expliquer comment un peu il faut guetter. Il y a plusieurs façons de guetter les choses et les gens qui vous entourent. Et je vais d'abord vous raconter une petite histoire. C'est dans le Grand Ouest américain, c'est un cow-boy qui est là et il veut absolument savoir le temps qu'il va faire pendant l'hiver. Et il commence à couper un peu de bois pour mettre à côté de sa maison. Et il dit, oh, je vais aller demander à l'Indien qui est sur la colline là-bas, qui connaît bien les choses de la nature et qui connaît son pays. Et il va le voir. Et il lui demande si l'hiver va être rude. Et l'Indien lui dit, hiver très rude. Et donc le gars, il redescend et puis il coupe du bois. Et il dit, j'en ai peut-être pas fait assez, j'ai peut-être pas assez coupé de bois. Je vais aller revoir l'Indien. Il remonte voir l'Indien. Et l'Indien lui, il regarde, il guette comme ça, il regarde un petit peu pour voir la nature, il dit, hiver très très rude. Alors le cow-boy redescend et il va recouper du bois et il fait ça je sais pas combien de fois, il a je sais pas combien de stères de bois devant sa maison et il va voir l'Indien, il dit, peut-être ça suffit. Et l'Indien lui dit, hiver très 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 rude. Et le cow-boy lui dit, mais comment tu vois ça? Il dit, homme blanc, coupé, beaucoup bois. Alors, je voudrais simplement pour vous dire que pour guetter, il faut guetter les bonnes choses. Et il y a deux choses qui m'ont un petit peu inspiré ce matin pour vous parler de réflexion. Nous sommes allés en vacances dans le Middle West américain et il y a une ville qui m'a énormément frappé, c'est Nashville, pour deux choses. Peut-être certains y sont déjà allés et cette ville est bizarre parce que c'est la ville de la musique et vous avez une partie de la ville, c'est vraiment, il y a tous les bars ouverts, il y a de la musique, c'est même un petit peu assourdissant d'ailleurs. Un soir, on voulait s'attabler, on ne pouvait même pas se parler, tellement c'était de la bonne musique, mais c'était tellement fort. Et dans cette ville, elle est bizarre, cette ville, parce que vous montez un petit peu, vous redescendez, et la rue s'appelle Broadway. Et à partir d'un bloc de cette ville, vous passez d'une ville où c'est très très calme, à vous traversez simplement la rue, et déjà là, vous êtes envahi par la musique très forte. Et avec tout ce que ça comporte, la musique, le monde et tout ça. Et dans la partie qui est plus calme, toutes les églises sont là. Et je me disais, tiens, ça fait comme une espèce de frontière entre le monde spirituel et puis le monde un petit peu plus musical. Et c'était bizarre. Il suffisait de traverser une rue pour se retrouver dans un autre monde. Et ça, c'était facile de faire la séparation entre les deux choses. C'est parfois plus difficile de faire la séparation entre ce que Dieu veut pour nos vies et ce que parfois nous en faisons. Et puis, il y a eu un deuxième événement. On était rentrés et un soir, on était un peu fatigués. Et dans la rue, j'entends crier et comme des coups de feu. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde à la fenêtre et en face, il y avait feu. Et donc, on entendait une femme qui était coincée et qui hurlait. Et je descends en bas, Pascal était déjà là. Un policier était déjà venu demander une échelle et tout ça. Et tout le quartier se mobilisait pour sauver cette femme. Et J'ai été chercher une échelle dans le jardin, on a monté l'échelle et Pierre-André tenait l'échelle. Après, il n'arrivait pas à ouvrir le volet et on entendait cette femme hurler. C'était terrible. Et après, je cours dans le jardin chercher une hache. Alors, je tombe sur la hache de Pépé Brunel, de mineur. Je dis non, celle-là, ça va pas aller. Je retrouve une autre hache et je cours. Bon, ils avaient réussi déjà entre deux à casser le volet, à sortir cette femme qui était dans un état terrible. Ça m'a fait penser à une chose, c'est que presque. Et il y a un monsieur qui est monté à l'échelle, le policier l'aidait, et il a réussi à sortir cette femme, il s'est brûlé les mains, il a tout fait pour sauver cette femme. Et je me disais parfois, dans nos vies, et toute la rue était en émoi, évidemment, la rue était complètement bouchée. Et après, les pompiers sont arrivés. Et je me disais. Tous les gens ont essayé de faire quelque chose pour sauver cette femme. Et je me disais, au niveau spirituel, est-ce que nous aussi, nous sommes des guetteurs pour essayer de sauver tous ces gens qui se perdent? Est-ce qu'on a la même volonté? Est-ce qu'on a la même pensée de vouloir aller aider des gens qui se perdent? Alors, vous me direz, c'est sûr. Il faut que ces gens-là aient le sentiment d'être perdus déjà, parce que c'est pas obligatoire. Quand j'entendais cette femme crier, je me disais, elle se sentait perdue. Mais alors, l'annonce de Jésus-Christ comme la solution pour le salut du monde, eh bien, et pour notre sauvegarde personnelle, lorsque nous sommes déjà convertis, eh bien, nous avons peut-être, nous, en tant que chrétiens, un rôle de guetteur. Et c'est une idée qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 6, du verset 16 à 21. Au chapitre 3, pardon, excusez-moi. 16 à 21. Regardez ce qu'il va dire le prophète. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et là, c'est Dieu qui parle directement à Ézéchiel. Fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise foi, de voix et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice. Mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a fait et je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra, parce qu'il a été averti, et toi, tu sauveras ta vie. C'est un sacré programme hein, que donnait Dieu au prophète. Et c'est vrai que parfois, la grâce de Jésus-Christ commence d'abord par la repentance, ça, nous le savons tous. Mais encore faut-il être au courant de l'état dans lequel vivent ceux qui nous entourent. Il faut savoir. Et pour ceux qui ont eu le salut, eh bien, à qui le salut a été donné, eh bien, il faut travailler pour rester fidèle à ce salut. Et nous devons parfois être des guetteurs, pas comme cet Indien qui guettait des signes peu probables et peu intéressants, mais guetter, pas pour fiquer les gens, pas pour les surveiller, mais pour les aider et pour nous aider. On se dit, bah oui, mais les gens qui sont perdus et qui ne veulent pas venir, c'est cuit pour eux. Non, c'est jamais cuit pour eux. J'ai lu une histoire qui est extraordinaire. Vous connaissez tous ce nazi qui s'appelait Bormann, hein, qui était un nazi tout près de Hitler. Et c'était le chef des SA, c'est-à-dire un groupe paramilitaire nazi. Et non seulement ça, mais il était aussi le chancelier du parti nazi et un général SS. Donc, quelqu'un de peu recommandable. Et ce monsieur, il a eu des enfants, il a eu deux ou trois filles et un fils. Et Hitler a demandé à Bormann, il voulait être le filleul de son fils. Et lorsque ce fils a eu 10 ans, puisqu'il était né en 1930, donc c'était en 1940, tous les enfants des élites de nazis étaient envoyés dans des collèges et des lycées spéciaux pour faire la future élite de l'Allemagne. Et leur enseignement, c'était donc des choses très physiques, du sport, beaucoup de choses comme ça, évidemment de la politique, et aussi la négation de toute religion possible. Non seulement la négation, mais la moquerie de toute religion possible. Et donc, en 1945, quand Hitler s'est suicidé, ses enfants qui avaient été élevés dans ces collèges se sont retrouvés livrés à eux-mêmes avec un enseignement anti-Dieu, raciste. Et finalement, à la fin, quand l'État allemand s'est effondré, bien, ils se sont retrouvés dans la nature, comme ça, avec une éducation complètement folle. Et ces enfants, eh bien, vont être lâchés dans la nature en pleine décomposition. Et ce fils de Bormann, qui s'appelait aussi Martin comme son père, va dire: J'étais, dit-il, plus tard, comme un animal sauvage le jour de l'ouverture de la chasse. C'est-à-dire qu'il est complètement perdu. Et il va essayer de survivre par ses propres moyens, et un jour, mort de fatigue, il s'effondre devant une ferme en Allemagne. Et là, deux braves gens, des chrétiens, vont trouver ce jeune garçon de 15 ans à leur porte. Et la dame va dire: Tiens, voilà, elle ne savait pas qui c'était, hein, voilà notre bonne action. Nous allons nous en occuper. Et donc ils le nourrissent, ils le remettent en forme, et ils voient que ces gens sont religieux. Et sa première réaction, c'est de se moquer d'eux et de leur dire: Mais tout ça, c'est de la bêtise. Et puis finalement, au cours des mois, il se rend compte que ces gens sont pleins d'amour, et il commence à lire des revues chrétiennes que les gens avaient chez eux. Et au bout de 6 mois, 1 an, il va demander une Bible. Il va demander une Bible. Et il va commencer à lire la Bible. Et il dit qu'il va la lire de la première page jusqu'à la fin, toute la Bible entière. Et il dit, voilà ce qu'il dit: Je la lus, raconte-t-il, de la première à la dernière page. Cela ressemblait au premier abord à un livre de contes de fées. Mais c'était impressionnant et même fascinant. Pourtant, je n'arrivais toujours pas à comprendre comment les gens pouvaient croire à toutes ces histoires, ni pourquoi ils allaient à l'église. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui vient voir ces braves paysans allemands, et il lui parle. Et Bormann n'est toujours pas converti. Il dit: Tout ce que vous me racontez là, ce sont des mensonges. Et le monsieur qui vient lui parler lui dit: Le Seigneur ne vous oubliera pas, ayez confiance en lui. Et là, ça travaille dans sa tête. Et tout d'un coup, c'est le procès de Nuremberg, vous savez, où tous ces nazis vont être condamnés. Bormann, lui, s'est sauvé, hein, on ne sait pas où il est, mais il est condamné. Et donc, c'est un moment très dur pour ce garçon qui voit sa famille condamnée. Et donc, cette même personne va le revoir. Et il lui dit: Il dépend de vous que Dieu soit un juge implacable ou un rédempteur plein de miséricorde. Et en lisant ces mots, en se rappelant ces mots, eh bien, Bormann se met à pleurer. Il se met à pleurer, dingue. Alors il dit: Il faut que j'aille voir quelqu'un. Et donc il va voir quelqu'un qui était venu déjà le voir, et il va frapper à la porte, et là il est pris d'une panique, il n'ose pas frapper à la porte, il dit: Dans quoi je m'engage? Et tout d'un coup la porte s'ouvre, et c'est le monsieur qui lui ouvre la porte. Et ce monsieur, donc Bormann, va devenir missionnaire. Et il va enseigner les autres sur l'amour de Dieu, ce que peut faire Dieu. On avait l'impression que ce garçon, excusez-moi, il était foutu pour Dieu. Et non, parce qu'il y a eu des guetteurs qui étaient là pour prendre soin de lui, d'abord pour lui donner tout leur amour et lui parler de Dieu. Et voilà ce qu'il dit à la fin de sa vie, puisque je ne sais pas s'il est mort, il est né en 1930, peut-être pas encore. Il dit, je n'ai plus qu'un but en ce monde, faire partager à d'autres une foi dont la révélation m'a donné la sérénité et la paix. Que Dieu me donne la force d'y parvenir. Ah, c'est presque l'histoire, on pourrait en faire un film de l'histoire de cet homme qui, vraiment fils d'un nazi, élevé comme un nazi, avec des idées nazies, et se retrouve à propager la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu des guetteurs, des gens qui étaient là pour guetter, pour aider quelqu'un. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons avoir en tête, ça. C'est que toutes les occasions sont bonnes, même lors d'un mariage, même quand les gens sont un peu réticents. Tu vois de qui je parle, Jean-Pierre. Et c'est pas grave, on annonce. Et après, il ne faut pas croire que les mots qu'on dit s'arrêtent. Ils travaillent dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens. Et ils peuvent faire énormément de choses. Alors, pour conclure, je voudrais vous lire un passage dans Jean qui nous enseigne d'abord à ne pas abandonner notre foi. Et j'espère que si un jour je fais un faux pas, il y aura un guetteur pour me dire « Viens par là, que je t'explique ». J'espère. Et nous espérons tous ça. Et aussi que nous soyons prêts à accueillir même les gens qui semblent les plus retors à la parole de Dieu, même les gens pour nous c'est impossible de les amener à Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen.